Chapitre 80. Marchant d'un pas vif dans la nuit, Maxime laissait derrière lui la naguère glorieuse cité d'Ile-Dakar. Le linceul disparu du monde entier s'offrait à lui. Des siècles durant, il avait vécu dans cette ville, jouissant de toute la puissance et de tout le luxe dont on pouvait rêver. Au début, il aimait Ile-Dakar. Il avait participé à son développement, aidé à surélever la plaine, contribué à la création du linceul, tant d'efforts et de sacrifices pour des murs et des toits. À l'époque, il était si jeune et naïf, sans compter son amour pour Tora. Au début de leur union, il rayonnait de joie et ça n'avait rien à voir avec le don ou un quelconque sort. Si Tora l'avait ensorcelé, c'était d'une toute autre manière. D'abord entiché d'elle, il avait conçu pour elle un amour qu'il pensait infini, une passion sans limite. Ivre de bonheur au seul contact de sa peau, il se rappelait son émerveillement chaque fois qu'il entrait en elle et qu'elle cambrait les reins pour mieux l'accueillir. Des moments inoubliables. Le crétinisme pratiqué comme un art majeur, plutôt. À part dans les ridicules chansons des troubadours, l'amour éternel n'existait pas, et les âmes sœurs, au bout d'un moment, en arrivaient à ne plus pouvoir se voir en peinture ou en figure. Si fabuleux qu'il fût, son amour exclusif pour Tora n'avait guère duré plus d'un siècle. Même si elle ne vieillissait pas, son corps restant parfait, Maxime avait progressivement perdu tout intérêt pour elle. Au début, il s'était consolé avec des yaxènes de soie, fort belles et très dociles, mais ça s'était vite révélé ennuyeux. Du coup, il avait pris sa première maîtresse vraiment illégitime. Puis, il en avait eu jusqu'à 10 en même temps, sans que sa femme le sache, même si elle devait avoir elle aussi des extras tant elle s'ennuyait avec lui. Avec l'apparition des parties de plaisir, les deux époux avaient vécu leur frasque au grand jour. Très vite, Maxime s'était avisé qu'il n'en avait rien à faire. Si Tora et lui restaient liés par le pouvoir, leur grand amour ne valait plus un clou, dérivant de l'indifférence à la haine au fil des siècles. Un jour, Maxime avait dû s'avouer qu'il désirait faire souffrir cette femme et la détruire. À plus grande échelle, sa romance avec Ile-Dakar avait suivi la même courbe. Au début, avant l'arrivée de l'armée d'Outros, le bras droit d'un conquérant nommé Kourgan, Maxime adorait sa ville. Afin de la défendre, il avait développé le sort de pétrification, puis l'avait lancé sur la horde d'assaillants. Ensuite, il avait appris aux autres à le faire, mais cette magie demeurait à lui. Sous le linceul, Ile-Dakar était devenu un été noir, et ça s'était étalé sur d'interminables siècles. Enfermé à vie dans une chambre, les meilleurs amis du monde, voire les amants les plus passionnés, finissaient tôt ou tard par se détester. Peu à peu, Maxime avait changé d'avis sur Ile-Dakar. Oui, la cité restait d'une sublime beauté, mais à ses yeux, comme sa femme, elle ressemblait à un cadavre outrageusement maquillé. Tous les corps puaient en se décomposant. Pour empêcher ça, il fallait les incinérer sur un bûcher. Devenu masque-miroir, il avait érigé ce bûcher puis fait jaillir les étincelles qui l'embraseraient. Dans son plan, Nietzsche avait joué un rôle central. Alors qu'il s'éloignait de son ancienne prison, Maxime n'oubliait pas qu'il n'en avait pas encore terminé. Ile-Dakar devait être détruite. Même si les esclaves révoltés promettaient d'être une sacrée nuisance pour les élites, il ne parviendrait jamais à les blesser assez. Maxime avait d'autres ambitions et il savait depuis quelque temps comment les réaliser. Jusque-là, il n'avait pas osé. Mais qu'avait-il à perdre désormais? À Ile-Dakar, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La souveraine avait perdu le pouvoir et son mari n'était autre que le rebelle Masque-Miroir. Désormais unis, les membres du conseil avaient donné l'ordre à Stuart et à ses hommes de ne plus combattre les émeutiers. Après leur révolte, les classes inférieures se retrouvaient face aux dégâts qu'elles avaient provoqués. Cessant eux aussi le combat, les rebelles se consacraient désormais à l'extinction des incendies, à la reconstruction des bâtiments et à la guérison des blessés. Informés que Masque-Miroir était parti, ses plus loyaux partisans en appelèrent à Nietzsche, qui ne put refuser de leur donner un coup de main. Quittant la tour du pouvoir, Bannon, Nathan et elle avaient sillonné les rues pour inciter les gens à baisser leurs armes et à se joindre à l'effort collectif de reconstruction. Rendel et plusieurs autres esclaves avaient crié le nom de la magicienne comme un slogan. Enthousiaste, Melba avait même proposé qu'elle soit la prochaine Sovrena. Bien entendu, Nietzsche avait étouffé cette idée dans l'œuf. « Ce n'est pas pour moi. Je suis venu pour vous aider, mais cette ville vous appartient. » Mara avait ponctué cette déclaration d'un rugissement bien senti. Les gens avaient un peu blêmi, mais ils n'avaient rien à craindre, car la magicienne contrôlait parfaitement la panthère. Alors que les trois amis arpentaient les rues, Nathan lança un sort pour projeter l'eau d'une fontaine sur un bâtiment en flammes. Nietzsche l'aida avec son don, mais il y avait encore tant d'incendies. Bien qu'épuisée, la magicienne vola au secours de nombreux blessés qui n'auraient pas survécu sans son intervention. Toujours côte à côte, Nathan et Elsa soulagèrent autant que possible les souffrances des vivants et les tourments des agonisants.
« La dernière fois que j'ai fait ça, » soupira le vieil homme, « à Renda-sur-Bey, le blessé a connu une fin atroce. Redevenir soi-même est si agréable. »
Tendrement, Elsa plaça ses mains sur celles du sorcier afin de l'aider à guérir un autre malheureux. Non loin de l'hôpital où des médecins et des guérisseurs s'occupaient des victimes, Bannon courait partout pour se procurer de l'eau et des pansements. Avide d'aider, il se coupait en quatre. Alors que la puanteur de la fumée et du sang montait à ses narines, il sursauta quand une femme en cuir noir, elle-même en piteux état, vint proposer de l'aider. Tournant la tête, il devint blanc comme un linge.
« Douce mère la mère, Lila !»
Bannon voulut dégainer son arme, mais la jeune Morassite n'esquissa pas un geste agressif.
« Je ne veux plus te combattre, Bannon. Tu as été mon élève et mon jouet, mais Adessa est partie, et mes ordres ont changé. Le conseil veut que nous travaillions tous ensemble. Tant qu'à faire, j'ai choisi d'être avec toi. »
Le front plissé, la Morassite attendit une réponse. Bannon eut d'abord du mal à trouver ses mots, mais il finit par sourire.
« J'aurai besoin de quelqu'un pour transporter plus de pansements. Allez, filons aider les blessés. »
Loin de son arrogance passée, Lila parla comme si elle était un peu gênée.
« Je peux soigner les plaies. C'est normal après en avoir infligé tant. »
Toujours en binôme avec Elsa, Nathan lui tapota gentiment le bras.
« Je suis impressionné par ta détermination et tes compétences en magie, très chère. Maintenant que je suis entier, tu pourrais m'enseigner le sort de pétrification. Ça pourrait m'être utile.
Je serais ravi de te former, si tu restes. »
Le vieux sorcier interpella Nietzsche.
« On pourrait s'attarder un jour ou deux, non ?»«
Oui, mais pas davantage. »
répondit la magicienne en essuyant ses mains rouges de sang sur le devant de sa robe.
« Ici, nous n'avons plus rien à faire. La ville est libre et nous partirons dès que les derniers incendies seront éteints. Il faut laisser ces gens recoller les morceaux et reconstruire. Avec un peu de chance, ils créeront une société vraiment parfaite cette fois. »
« Tu es si pressée que ça de partir, magicienne ?»
demanda Nathan. Nietzsche prit le temps de la réflexion.
Oui.
Bannon jeta un coup d'œil à Lila qui revenait avec une moisson de pansements. Face à elle, il était toujours mal à l'aise.
Nous n'avons aucune raison de rester,
approuva-t-il.
La ville est sauvée et d'autres aventures nous attendent.
Même si Nietzsche n'était pas enthousiaste à l'idée de crapahuter, de dormir à la belle étoile et de manger des rations, elle pensait à Mra, avide de retrouver la plaine et ses innombrables proies. Devinant ses pensées à travers leurs liens, la panthère émit un son à mi-chemin entre un feulement et un ronronnement d'aise.
« Ildakar n'a plus besoin de nous, »
conclut la magicienne. Parvenu assez loin de la ville peu de temps avant l'aube, Maxime s'immobilisa quand il entendit le hurlement d'un loup à pic et les deux réponses qui suivirent. « Comme lui. » Les animaux libérés de la ménagerie fuyaient l'enfer d'Ildakar. La plaine traversée, l'ancien sorcier en chef monta sur une colline d'où il dominerait l'armée pétrifiée du général Outros. Un 500 000 d'hommes résolus à conquérir Ildakar pour la gloire de Croc d'Acier. Ce siège était interrompu depuis 15 siècles. N'était-il pas temps que ça change? Son point d'observation atteint, Maxime s'attela à ses préparatifs. Dégageant une zone de terre avec un talon, il la lissa pour pouvoir y dessiner aisément des runes et des formes de sorts. Utiliser le sang de quelques esclaves aurait été plus commode, mais, faute d'en avoir, il devrait se contenter du sien. Il faudrait que ça suffise. Dans les ombres, Maxime vit briller des yeux jaunes et distingua la silhouette d'un gros félin, sans doute un des léopards d'Ivan. Allait-il attaquer? Attentif, Maxime resta sur la défensive jusqu'à ce que l'animal décide de filer ailleurs. Revenant à sa magie, il sortit le couteau rituel conçu pour les sacrifices, traça dans la poussière les symboles requis, s'entailla la paume et arrosa son œuvre de gouttes de sang qui se mêlèrent à la poussière. Le sort original avait exigé la mort de milliers de personnes. Près de 2 jours durant, des flots de sang avaient coulé dans les conduits. Un infini défilé de victimes, certaines consentantes et d'autres tenues par des gardes. Au bout du compte, les sorciers d'Ildakar avaient réussi. Pétrifiant jusqu'au dernier soldat d'Outros, la vague de magie avait sauvé la ville. Tant d'efforts et de pouvoirs. Mais il était bien plus difficile de lancer un sort que de le désactiver, surtout lorsqu'il faiblissait de lui-même. Quand le sang se fut répandu sur toute la forme de sort, Maxime planta la lame rituelle au centre exact de cet entrelac de runes et de symboles. À travers son don, il sentit l'onde de choc d'une incroyable violence, comme si des milliers de cordes tendues au maximum se brisaient net. En un éclair, les sorts de pétrification, tous les sorts de pétrification, se volatilisèrent comme s'ils n'avaient jamais existé. Cette vague déferla sur la plaine en direction de la lointaine île Dakar. Maxime éclata de rire. Un grand moment et une incroyable quantité d'énergie soudain libérée. Après le changement stellaire, la magie s'était délitée permettant le réveil du soldat nommé Ulric. Ce jour-là, le sorcier en chef avait compris que c'était faisable. Oui, on pouvait intentionnellement défaire ce qu'on avait fait. Annuler un sort, en somme. Maxime aurait volontiers assisté au spectacle à venir, mais participer à la suite des événements n'aurait pas été judicieux. De toute façon, n'avait-il pas fait sa part du travail? Bientôt, il ne resterait plus rien d'Ildakar. Très content de lui, Maxime reprit son chemin, pressé de découvrir l'ancien monde et toutes les choses fascinantes qui l'attendaient. Dans la plaine, des centaines de milliers de soldats se réveillèrent avec une seule idée en tête, conquérir la cité qui se dressait devant eux.
Vous venez d'écouter Les Chroniques de Nietzsche, tome 2, Le linceul de l'éternité, de Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire. Une production Audible Studio.